Radio Barque, deuxième partie sur la septième de la saison. On se retrouve pour évoquer la suite de notre sommaire, mais peut-être une dernière précision, Michel, sur la fin du sujet précédent, c'est-à-dire l'arrivée de ces 12 communes supplémentaires Grand Narbonne.
Oui, j'ai évoqué l'aspect juridico-administratif de cette affaire, mais aussi un aspect politique très important qu'il convient ici d'évoquer, à savoir que avec l'arrivée de ces 12 communes de gauche,
Toutes,
qui arrivent effectivement au Grand Narbonne. Jacques Bascou va se retrouver avec le futur groupe qui va être installé bientôt, gauche, va se retrouver avec une majorité absolue. Ce qui change complètement la donne politique, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin des voix de Martin, Kersivière, entre autres, pour avoir sa majorité dans les débats au Grand Narbonne. Premier point. Deuxième point, ça va peut-être radicaliser, je mets des guillemets, le nouveau groupe de Henri Martin, divers droite, et je sais pas quoi encore. Et enfin, isoler, mais alors complètement, le maire de Narbonne et son petit groupe. Donc on va être dans une configuration politique tout à fait originale qui redistribue complètement les cartes politiques et le jeu politique sur le futur Grand Narbonne, qui va être amusant, entre guillemets, à observer dans les semaines, plutôt les mois qui viennent.
Voilà. Précisons quand même, comme ça a déjà été évoqué, que ça n'est pas un coup politique monté par Jacques Bascou, mais l'application de la loi.
Pur et simple.
Mais qui lui sera mécaniquement
produit, qui mécaniquement produit ce genre de résultat. Bon, et Jacques Bascou n'était pas en situation, quand il a été élu président du Grand Narbonne, d'anticiper ce genre d'événement, comme Henri Martin d'ailleurs.
Voilà. Bon, mais en tout cas, c'est comme ça aujourd'hui. Alors, une semaine au niveau, pas tellement local encore que, mais essentiellement national, marquée par certaines scènes de violence. Alors, on n'est plus dans la chemise du DRH d'Air France, mais on est dans des choses assez graves. Par exemple, dans l'Isère, où on voit des voitures brûlées, incendiés volontairement, et surtout une façon de l'État, du gouvernement, d'hésiter devant la conduite à tenir apparemment.
Oui, bon, là, classiquement, violence, et puis décision d'intervenir de manière implacable et non pas impeccable,
Alors là, une petite parenthèse quand même, parce qu'effectivement, on a déjà remarqué dans cette émission qu'aujourd'hui, lire l'Indépendant, Midi Libre, l'Indépendant, c'est à peu près la même chose. Eh bien, moi, je vais vous démontrer aujourd'hui que non. Quand on lit les deux, on a un son de cloche différent. Je lis à propos de cette affaire, donc, des gens du voyage qui ont brûlé des voitures à Moiran, dans l'Isère, que de la part du gouvernement, ils doivent s'attendre, ceux qui ont agi hier, à être impeccablement recherchés et poursuivis. Bon, forcément, je me suis posé la question, comme tout lecteur. Heureusement, je lis aussi Midi Libre, et là, je vois qu'ils doivent être implacablement poursuivis. Ouf, les choses sont plus claires.
Je vois que tu as profité de très très rapidement de cette passe que je t'ai offerte sur l'impeccable. Non, mais je vais revenir sur le fond, parce que ce qui m'a quand même, il faut le dire, ce qui m'a, choqué, c'est aussi la manière dont la presse et les médias de manière générale ont rendu compte de cet événement. À savoir que l'idée qui était sous-jacente à tous ces médias, et forcément ça entraîne des réactions dans ce sens-là, était que rien n'avait été fait alors que tout aurait pu être fait pour emprisonner très rapidement, d'abord mettre en examen, carrément mettre sous les écrous, les auteurs de ces violences. Or, c'est pas aussi simple que ça. C'était en matière de justice.
Oui, il y a des règles
qu'il faut respecter, et notamment tant que la preuve matérielle n'a pas été apportée que tel ou tel avait été en train de incendier des voitures, briser je ne sais quoi, procéder à des violences physiques, on ne peut strictement rien faire. Tout ça pour dire que encore une fois, sous le coup de l'émotion, l'émotion bien réelle, et justifiée d'événements sinon dramatiques, en tout cas d'une violence extrême, à travers la manière de rendre compte des médias, on suscite des réactions dans le public qui sont tout à fait inadaptées au contexte, et en tout cas qui ne peuvent pas rendre compte de la manière dont on doit et dont on peut, effectivement, je parle de la justice, procéder à des interpellations et agir de manière implacable, comme le dit Francis.
Et on déborde tout de suite sur l'autorité du gouvernement. Encore qu'il y a eu un précédent, justement, de la part des gens du voyage, il y a 2 mois à peine, sur l'autoroute A1, qui fait justement que ça a peut-être induit un fâcheux précédent. Et ceux de l'Isère se sont dit, les autres ont obtenu gain de cause, pourquoi pas nous ? C'est humain aussi et psychologiquement normal.
Peut-être, mais là on est face à des contradictions qui sont difficilement gérables, quoi, de la part de, qui résultent de décisions prises par un procureur dans un département et par un autre dans l'autre. Mais là, en l'espèce, on ne peut pas faire, je crois, le procès fait au gouvernement, notamment, de ne pas avoir immédiatement interpellé et arrêté un certain nombre d'agonistes.
Il
ne le pouvait juridiquement, judiciairement, pas, tout simplement. Donc maintenant, c'est son travail de trouver les coupables et de mettre en œuvre les procédures qui vont dans ce sens-là.
Voilà,
mais encore une fois,
de manière que ça soit implacable et non pas impeccable.
Donc on peut être on peut être implacable en matière de poursuite judiciaire, mais en même temps, il faut être impeccablement droit dans le respect des procédures en question.
Voilà,
la contradiction, elle est là.
Ce lapsus est quand même intéressant, finalement, parce qu'il y a un double entendre, un double sens qui nous intéresse ici. Alors, les régionales, puisque c'est encore le grand sujet, et ce que tu as intitulé dans ton blog, Michel, le psychodrame républicain catalan.
Oui, c'est anecdotique.
Alors, catalan, côté français, les Pyrénées-Orientales.
Oui, c'est anecdotique, mais montre bien quand même l'état de la situation dans les différents partis.
Le flottement,
dans la constitution des listes de ces régionales, et là, en l'espèce, c'est chez les Républicains du département des Pyrénées-Orientales que ce psychodrame a eu lieu. Ça s'est passé, je crois, dimanche, lundi, à la grande surprise générale, la tête de liste des Républicains, le maire de Canet, républicain justement, a été décapité. Et puis, dans la foulée, l'ex-député Mac, qui est le premier secrétaire départemental des PO des Républicains, a lui aussi démissionné, donc a offert sa tête sur l'autel de la décapitation de son collègue de Canet. Alors, surprise, le lendemain, le DIMAC revient se présenter en disant, je sais pas, il faut voir, etc. Et puis bon, pam, sur le lendemain, on revoit les têtes en question, revenir sur le devant de la scène, si on peut dire, et retrouver les équilibres initiaux. Donc tout ça, ça fait quand même désordre, pour ne pas dire plus, dans un département où on sait quand même que le Front National fait des scores très très élevés, et donne une image des partis, de la manière dont ils composent leur liste et dont ils se projettent sur l'avenir pour les futures régionales, particulièrement détestable.
Oui, ça, c'est un jeu de chaises musicales qui laisse un petit peu pantois sur le sérieux de toute cette affaire,
exactement.
Finalement. Et alors, à propos de sérieux, justement, et des régionales, tu as également, il y a quelques jours, fait remarquer que les gens qui postulent pour la présidence de la région ne semblent pas aussi compétents que cela en matière des compétences qu'ils auront à assumer.
C'est quand même extraordinaire. Alors, c'est vrai que il faut quand même avoir un peu de compétences dans ce domaine-là.
Certes, c'est complexe.
C'est compliqué. Alors, c'est vrai que j'ai un œil un peu expert, entre guillemets, sur ces questions, mais quand même. Quoi. Voilà ceux qui sont présentés aujourd'hui comme les têtes de liste susceptibles de figurer au deuxième tour et pourquoi pas d'être élus à la présidence de la future grande région. Madame Delga, Monsieur Régnier, Monsieur Onesta et Monsieur Alliot réunis, comme par hasard, par la Fédération régionale des travaux publics du Languedoc-Roussillon, qui fait son lobbying habituel dans ce genre de situation, et à qui ces entrepreneurs demandent ce qu'ils entendraient faire pour relancer le secteur des travaux publics en difficulté, d'après leur dire, quand s'ils étaient, par hypothèse, élus à la présidence de la région. Et là, je lis ça, entre parenthèses, dans le l'hebdo Objectif Gare, qui a rendu compte de cette Assemblée générale. Je lis des propos, mais là, vraiment invraisemblables, quoi.
Alors, un exemple,
Madame Delga qui dit, je vais investir dans la route nationale, qui d'ailleurs n'est plus nationale, quoi.
Oui, départementale.
88. Alors, donc, première erreur. C'est plus une RN, comme elle dit, C'est une route départementale. La 88. Sauf que, c'est une compétence exclusivement départementale. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. C'est pas elle.
Oui, bon.
Premier point. Alors, tu te dis, voyons, mais est-ce qu'elle est emportée par la fougue? Est-ce qu'elle n'a pas le temps de lire la loi?
Un autre exemple pour
conclure. Est-ce que ses collaborateurs ne font pas les fiches qu'ils conviennent? Alors, un autre
exemple pour conclure sur ce sujet.
Pour être équilibré, Dominique Régnier, qui lui propose un vaste plan de collecte de financement à travers des procédures un peu compliquées pour justement réinvestir lui aussi dans les routes.
Même erreur.
Hein. Et puis j'entends Monsieur Alliot qui lui est furieux parce que la concurrence déloyale des Espagnols fait que elle vient prendre des parts de marché aux entreprises françaises et qu'il entend mettre des règles très précises pour leur interdire effectivement de prendre les marchés. Sauf que c'est juridiquement pas possible.
Hein. Dans l'Europe actuelle.
Dans l'Europe actuelle. Impossible. Hein. Les plus honnêtes ont été plus prudents et ont glissé sur des considérations extrêmement générales qui ne faisaient strictement aucune allusion à ça. Donc voilà, on a affaire à des présidents qui, visiblement, n'ont pas eu le temps de lire la loi. Ce qui, entre parenthèses, pour Madame Delga, qui est quand même députée, qui l'a votée, qui a été ministre aussi. Quand même un peu gros. Hein. Leurs collaborateurs font pas les fiches qu'il conviendrait de faire quand ils vont devant ce genre d'assemblée. Oui. Mais qui, en tout cas, dénote que on n'est pas loin d'entendre encore, hein, pendant quelques semaines, des propos démagogiques et des promesses de ce genre qui sont vraiment tout à fait, de mon point de vue, inacceptable pour quelqu'un qui s'intéresse effectivement à l'architecture générale et au pouvoir des différentes collectivités.
Voilà. Comme on dit populairement aujourd'hui, il y a un bug quelque part.
Il y a un bug quelque part et voilà, il faudrait quand même qu'on cesse de prendre les électeurs a priori pour des imbéciles.
Voilà. Et on marque une deuxième pause. On se retrouve tout de suite après avec Édouard Rocher.